Bonjour, c'est Clara Luciani sur Popopop.
Popopop,
c'est parti.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. On en revient toujours au polar. On a beau dire, on a beau faire, s'intéresser à plein d'autres choses, lire des essais, des romans traditionnels, des recettes de cuisine, des modes d'emploi, le journal, l'avenir dans des boules de cristal, bref, tout ce qu'on veut, fatalement, on en revient toujours au polar. Pourquoi le crime, notre part d'ombre, comme disent les amateurs de clichés, et pas seulement photographiques, nous fascine-t-il tant ? Alors là, je serais tenté de répondre qu'il y a autant de réponses que d'auteurs et de lecteurs, mais ce qui est certain, c'est que les bons auteurs, comme les bons lecteurs d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui vous donnent le sentiment d'avoir fait un peu de spéléologie dans les tréfonds de nos psychés, cela se compte sur les doigts de la main de Mickey ou du baron en pain, comme le remarquait si justement Pierre Desproges, à l'époque où le dit baron s'était fait amputer de son petit doigt par ses ravisseurs alors qu'il n'était absolument pas consentant. Oui, les bons auteurs de polar, ceux dont le point de vue sur le monde est tellement original qu'il vous fait reconsidérer le vôtre, ceux dont les livres continuent à vous poursuivre bien longtemps après que vous les ayez finis, eh bien j'en ai un en face de moi, et Charline et moi, on s'en réjouit. William Boyle est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour William Boyle.
Hi, thank you for having me.
Merci de m'avoir
invité. On est ravis de vous avoir, d'autant plus que vous arrivez, si je comprends bien, directement de Memphis, via le Texas à Paris.
C'est bizarre comme itinéraire, mais oui, c'est comme ça que je suis venu.
D'autant plus admirable d'être là, vivant, dans ce studio, avec nous.
J'aurais pas raté ça pour rien au monde.
Je vous présente à mes côtés Charline. On avance dans l'année et moi je prononce correctement votre nom, mademoiselle Rouf. Bon, bonjour quand même.
Eh bien, écoutez, pensez aux voyelles, c'est une petite astuce perso qui marche assez bien. Oh. Bonjour à tous.
Voilà. Au menu de Pop Pop Pop, vous et uniquement vous, William Boyle.
It is. It's great.
C'est super cool.
Very excited.
Plus que cool. Alors William Boyle, comme vous êtes notre invité fil rouge, vous n'allez pas échapper à la question que j'ai posée pendant 15 234 émissions. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi ma préférée, il y a celle d'Arlan Coben.
Hey, anything that you like,
c'est n'importe quoi que vous aimez,
sort of present day,
quelque chose qui est d'aujourd'hui,
or nostalgic in an interesting
nostalgique, mais d'une façon intéressante.
Those are always what I think of pop.
C'est ça toujours ce qui est pour moi de la pop culture.
Ça, c'était Arlan Coben. Et pour vous, William Boyle, c'est quoi la pop culture ?
J'ai l'impression que la culture pop, c'est quelque part comme la rumeur, le son de quelque chose, de tout.
Picture it as just kind of an
engine, comme un moteur.
It's everything that drives me from.
C'est tout ce qui me pousse à travailler, tout ce qui m'aide à travailler. Des Shangri-Las, les disques des Shangri-Las.
Films,
des films.
To novels. I mean, I don't really make a lot of separation between things.
Je fais pas beaucoup de séparation. C'est tout ce que moi, ce que j'entends, ce que j'absorbe.
Bien. William Boyle, la pop culture pour moi, c'est notamment Paul McCartney, et on l'écoute tout de suite avec son tout nouveau morceau Hand in Hand.
Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise, I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light, wanna show you my path. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true. Only if we want to, we can make this dream come true. Only when we understand everything in life is planned, can we make this dream come true.
McCartney avec son tout dernier morceau Hand in Hand, et c'est un peu comme ça que nous avançons avec Charline Roux, main dans la main, sur la longue route de la pop culture.
Ah bon ?
Oui. Bref, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Boyle. Mais s'agit-il de Suzanne Boyle ? La chanteuse découverte dans le programme Britain's Got Talent ou du génial William Boyle? Eh bien, pour le savoir, passons à son pop portrait. Alors, votre pop portrait, ben, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et alors, attention, 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 événement pop, 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 c'est un portrait signé aujourd'hui par son plus grand fan français, l'admirable Laurent Chalumeau.
C'est à moi là, donc.
Ah oui, c'est un peu à moi, là, oui.
Alors, en 2013, François Guérif, le pape, le daron, le dab du polar en France, le fondateur et l'animateur de la collection Rivage Noir, la plus belle collection de polar qu'on ait connue en France, plus belle encore que la série Noire, puisque plus respectueuse des auteurs, des textes et donc des lecteurs, François Guérif, donc, cherche quel livre va mériter l'honneur d'être le numéro 1000 de sa collection Rivage Noir. Va-t-il s'agir d'un des auteurs qui ont fait la renommée de la maison et qui sont devenus ses amis, comme par exemple James Ellroy, Dennis Lehane ou James Lee Burke ? Eh bien non. François Guérif surprend tout le monde en accrochant le dossard numéro 1000 à un inconnu dont le premier roman n'est même pas encore paru aux États-Unis et que lui a eu la chance de lire et d'acheter en primeur. Le roman s'intitule Gravesend, l'auteur s'appelle William Boyle, et de mon point de vue, c'est l'un des plus grands écrivains américains vivants. William Boyle écrit des romans qui se passent à Brooklyn, mais pas le Brooklyn bobo intello de Paul Auster, non. Un Brooklyn prolo et même sous-prolo, un Brooklyn qui vit grâce aux allocs, un Brooklyn qui survit en lisière et à l'ombre du crime organisé, un Brooklyn de petites gens, de petits blancs, italo et cato, et qui, sans être vraiment gangsters eux-mêmes, connaissent tous, comme on dit, un gars qui connaît un gars. La force de William Boyle, c'est sa façon de faire exister des endroits en quelques mots sans avoir besoin de les décrire en détail. La force de William Boyle, c'est sa capacité à faire exister des personnages comme on n'en a littéralement jamais croisé de semblables et de nous emmener dans leur tête au plus intime de l'intime sans jamais faire de psychologie. La force de William Boyle, ce sont des personnages féminins d'une justesse, d'une vérité qui font croire que William Boyle a été équipé d'un clitoris et d'un point G dans une vie antérieure. Mais surtout... La force de William Boyle, ce sont des dialogues qui comptent parmi les meilleurs que j'ai lus dans ma vie. Des dialogues qui prennent la conversation, si j'ose dire, dialogue, conversation. Des dialogues donc qui prennent la conversation là où les maîtres absolus de l'oralité retranscrite que sont Elmore Leonard ou Richard Price l'avaient laissé. Quand on lit les dialogues de William Boyle, on a l'impression de lire une partition de musique. Quand on lit ces dialogues, on entend littéralement chanter l'accent de Brooklyn, pas l'accent new-yorkais, pas l'accent du New Jersey, l'accent de Brooklyn, et ça juste avec des mots. Avant lui, personne n'avait su faire ça comme ça, et bon courage aux traducteurs. Aujourd'hui, William Boyle n'habite plus à Brooklyn, mais à Oxford, dans le Mississippi, qui était la ville de résidence de William Faulkner, vache sacrée des lettres américaines et prix Nobel de littérature. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, Pop 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 reçoit une future vache sacrée des lettres américaines et qui sait, peut-être un futur prix Nobel de littérature. William Boyle est dans Pop Pop Pop.
Comme vous y allez, mon cher Laurent, mais on dirait un discours de réception à l'Académie française. C'est absolument admirable.
C'est mieux que quand c'est la fille. Hein.
Non, je peux pas vous laisser dire une chose pareille, Charline. William Boyle, ce portrait me laisse sans voix, c'est un panégyrique.
Voiceless, it's a wonderful thing. What do you think?
Oh, unbelievable. Thank
c'est incroyable,
you.
Merci
so
beaucoup.
Mais vous vous connaissez, vous avez des intérêts mutuels. Enfin, il faut éclairer nos auditeurs.
We go back now a little
ça fait
ways.
Un moment maintenant hein, qu'on se
we met in Corsica
on s'est rencontrés
last
en Corse
year,
l'année dernière, je crois, pour la première fois. Et dès la première fois, on avait été en contact auparavant.
Donc on a compris, Laurent Chalumeau est un admirateur. Transi de William Boyle, notre invité aujourd'hui. William Boyle, quand vous n'écrivez pas, que faites-vous? C'est indiscret comme question, mais c'est comme ça. Et pour le savoir, nous allons passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Joe, un livre de Larry Brown, édité en 1991, adapté au cinéma en 2013 avec Nicolas Cage. Charline, vous êtes plutôt roux que Brown, mais dites-nous quand même deux mots de ce roman.
C'est la rencontre dans les forêts du nord du Mississippi entre Joe Ramson, quadragénaire alcoolique et désabusé, et Gary Jones, un gamin de 15 ans, illettré qui ne connaît ni sa date ni son lieu de naissance.
William Boyle. Auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, qu'on voit comment ça sonne?
Sure. The boy's name was Gary. He was small, but he carried the most. His arms were laden with shapeless clothes, rusted cooking utensils, mildewed quilts and blankets. He had to look over the top of them as he walked, just to be able to see where he was going. The old man faltered momentarily, did a drunken two-step, and collapsed slowly on the melted tar with a small grunt, easing down so as not to hurt himself.
Le garçon s'appelait Gary, il était petit mais portait plus que les autres. Ses bras étaient chargés de vêtements informes, d'ustensiles de cuisine rouillés, de couvertures et de courtes pointes moisies. Tandis qu'il avançait, il devait regarder par-dessus la pile pour voir où il allait. Le vieux vacilla brièvement, exécuta une petite danse d'ivrogne et s'affaissa lentement sur le goudron fondu, avec un faible grognement, se laissant glisser en douceur, afin de ne pas se blesser. Alors, William Boyle, je sais que Larry Brown fait partie de vos maîtres. Qu'est-ce que vous aimez tant chez lui au point de vous être installé dans la ville où il a vécu, Oxford, Mississippi?
J'ai découvert Larry en 2001. J'avais quitté New York
et
j'avais déménagé au Texas. Big Bad Love, le film, est sorti à ce moment-là. J'avais jamais lu ses livres. J'ai aimé le film, et donc j'ai essayé de retrouver le roman. Et très vite, il est devenu mon auteur préféré. J'avais rien lu d'aussi fort sur les vrais gens à l'époque. J'avais vraiment rien lu comme ça qui concerne l'endroit que je connais moi.
Pretty quickly, what
très vite,
I decided was
j'ai décidé
I wanted to write about
d'écrire,
Brooklyn,
moi, sur Brooklyn, d'où je viens, et sur les quartiers dans lesquels j'ai grandi, de la manière dont lui, il écrit.
Oui, donc ça a été non seulement une influence, mais aussi un déclencheur.
Ça
a ouvert beaucoup de choses pour moi. J'avais lu beaucoup de romans noirs quand j'étais gamin, mais là, il y avait quelque chose dans sa façon dont il décrit les endroits, les lieux et les personnages que j'avais jamais lu auparavant.
Jusqu'au point que, comme lui, vous promenez maintenant vos personnages d'un roman à un autre, comme lui l'avait fait par exemple avec le personnage de Faye, un caractère féminin qui apparaissait dans Joe, puis qui devenait à son tour l'héroïne d'un des romans.
Yeah, I think that was a big influence for The Lonely Witness.
Une influence vraiment, oui, tout à fait, pour Le Témoin Solitaire, ce qu'il fait avec ses personnages, de donner au caractère de personnage quelque chose qu'il avait hanté, donc de lui donner une nouvelle chance encore plus.
Pour le film, William Boyle, vous choisissez Mickey and Nicky. C'est écrit et réalisé par Helen May. Ça date de 1976. Charline, je croyais, moi, que la copine de Mickey s'appelait Minnie, non?
Oui, c'est pas faux. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de Mikey, Peter Falk.
D'accord.
Et son vieil ami, Nicky, John Cassavetes, l'appelle à l'aide depuis une chambre d'hôtel dans laquelle il est planqué depuis qu'il sait qu'un parrain de la mafia avait mis sa tête à prix. Toute ressemblance avec la bromance de Cone Chalumeau n'est même pas fortuite.
There's a contract out on Ed Lipsky and me. I know that for a fact. Resnick put it out. I know it for a fact. They're gonna kill me, Nick. They're gonna kill me.
You are not gonna die. I mean, even if somebody wants to kill you, that doesn't mean you're gonna die.
They're gonna kill me.
I want you to stop.
et on reconnaît bien sûr les voix de Peter Falk et de John Cassavetes. Pourquoi est-ce que ce film vous a à ce point séduit, William Boyle?
Well, John Cassavetes is one of my heroes. Un de mes héros. But I chose this film that
j'ai choisi ce film parce qu'il joue dedans. C'est pas un film qu'il a écrit, ni réalisé. Et j'ai d'autres raisons pour cela. Je crois qu'il y a une tendresse dans ce film.
Qui
n'existe pas véritablement, je crois, dans beaucoup de films avec des intrigues criminelles. Pour moi, c'est une chose très importante. Des personnages qui parlent beaucoup, qui se posent des questions. Ça se passe dans un laps de temps très restreint. Il y a une histoire dans le passé dont on connaît peu de choses. C'est vraiment un de ces films que je n'oublie pas du tout et qui reste en moi beaucoup plus que d'autres. C'est drôle, c'est triste, et c'est beau. Et c'est vraiment, en plus, un polar super.
Bien. J'ai un livre, j'ai un film, il me faut maintenant une série, et cette série que vous avez choisie, William Boyle, c'est une série dont je suis fou également, dont nous sommes fous, il s'agit des Sopranos, série américaine de David Chase, diffusée de 99 à 2007 sur HBO. Charline encore et toujours les Sopranos, mais personne ne s'en plaint, sauf vous qui êtes plutôt une contralto. Alors, racontez-nous quelque chose, Dimitri.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire qu'on n'ait pas encore raconté ici sur cette série? Par exemple, que ce grand homme, qui était James Gandolfini et qui est Tony Soprano, a donné $33,000 de sa poche à chacun de ses collègues comédiens pour réduire les écarts de salaire après la saison 4.
William Boyle, prouvez-moi que vous êtes encore plus fan des Sopranos que moi. Tiens, parlons par exemple, si vous le voulez bien, de ce mystérieux dernier plan du dernier épisode. Vous vous souvenez, dans ce dîner, la famille est réunie et puis, qu'est-ce que vous avez compris, vous?
Oh, I loved it.
Moi, j'ai adoré.
J'ai
pas voulu m'établir une théorie sur ce qui s'était passé ou ce qui ne s'était pas passé. Ça m'était égal, en fait. J'aimais que ça s'arrête comme ça. Et j'avais envie d'une fin comme ça. Une fin qui me hante et auquel je puisse penser, que je puisse imaginer ce qui s'est effectivement passé. Il n'y a rien de mieux pour moi comme fin. Twin Peaks, le retour, c'est la même chose pour moi. Toutes ces grandes séries, pour moi, c'est ça. Elles se terminent de façon mystérieuse et les gens continuent à en parler. Des années durant.
Ça a provoqué des débats sans fin. Ça a mis tout le monde en émoi. Est-ce que vous avez fait partie de ceux qui sont même sentis en deuil à la fin des Sopranos?
No, I love the ending.
J'ai adoré la fin. J'étais entouré de gens qui la détestaient.
Everybody was very disappointed.
Tout le monde était très déçu.
Really, in the last couple of seasons in
general. Mais c'était les deux dernières saisons, je crois, où vraiment que.
In the ending in particular.
Que vraiment, je me suis rapproché de cette fin. Elle n'était pas pour moi particulièrement. C'était vraiment. Je voulais que ça se termine comme ça. Pas une fin qui enveloppe tout, qui finisse tout, qui termine les choses, non.
Vous attendez le préquel qui va être tourné avec impatience?
Je ne sais pas si je suis si impatient que ça.
Je
regarderai avec intérêt.
Bien, terminons cette pop liste avec la chanson. Et cette chanson, c'est New York City Man de Lou Reed. C'était en 1996, une chanson extraite de l'album Set the Twilight Reeling. New York City Man, you just say go and that is it. I'm a New York City Man. Just say go and that is that. It's far too complicated. New York City Man, c'est un extrait d'un album peu connu de Lou Reed de la fin des années 90. C'est le Lou Reed que vous préférez ou bien vous prenez tout chez Lou Reed?
Oh, I love it all.
Non, j'aime tout.
I have I'm nostalgic for
J'ai
this record
la nostalgie
because I think it was my first
pour ce disque parce que c'est le premier. C'est le premier disque qui m'a appartenu qui était un solo de Lou. J'étais au lycée. J'écoutais le Velvet Underground. J'adorais le Velvet, mais là, c'était un album qui est sorti quand j'étais, je crois, au lycée, oui. Et il y a une légèreté dedans, quelque chose de. de Doom. J'aime la façon dont il décrit la ville et cette chanson-là, et aussi Egg Cream, que j'aime beaucoup. C'est impossible, je crois, de trouver un autre auteur qui parle de New York qui m'ait autant influencé. C'est vraiment un auteur.
C'est amusant, en fait, ça prouve une fois de plus à quel point les routes se croisent dans cette émission, parce que vous choisissez Lou Reed, nous recevions, vous parlez des Sopranos, nous recevions il y a quelques semaines Michael Imperioli, un des acteurs des Sopranos, qui lui vient d'écrire un livre autour de Lou Reed.
Whiteside,
oui. J'ai beaucoup aimé.
Bien, alors je résume Joey, Mickey et Nicky, les Sopranos, New York City Man, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
New York City Man, you just say go and that is it.
There's a contract out on Ed Lipsky.
I'm a New York City Man.
The boy's name was Gary. He was small, but he carried the most. His arms were laden with shapeless clothes.
I know it for a fact they're gonna kill me.
I want you to stop.
Un petit instantané de William Boyle. Vous vous y retrouvez?
Is it like you? Is it you?
Yeah, I think so. That sums me up.
Et oui, ça me résume.
Bon, c'est un bon début. William Boyle, avant de parler de Brooklyn, ville qui joue un rôle capital hein, dans Le Témoin solitaire, votre dernier roman, écoutons le morceau d'un groupe de Brooklyn qui s'appelle Parquet Courts. Et ce morceau, c'est Wide Awake.
Pop, 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 Antoine Decaune sur France Inter.
Wide Awake dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau de Parquet Courts, un des derniers groupes de Brooklyn à avoir fait parler de lui. Nous sommes toujours en compagnie de William Boyle, lui-même originaire de Brooklyn, et oui, tout ça a une raison, et un écrivain fou de musique. Juste pour mon info personnelle, William Boyle, est-ce que la scène de Brooklyn est toujours aussi active qu'elle l'était il y a quelques années?
The music scene?
La scène musicale?
Oh yeah, I mean, oui. I think there are just bands are moving there.
Beaucoup de groupes s'y installent tous les jours. Beaucoup de groupes que je connais du Mississippi, en fait, maintenant, ils sont résidents.
Bien, on sait qui vous êtes, on a écouté le portrait de Laurent Chalumeau, on connaît maintenant vos goûts, et avant d'aller plus loin, je voulais vous demander si vous aviez eu à souffrir de la quasi-homonymie avec William Boyd, l'auteur anglais qui a repris la franchise James Bond.
I think, well, when I first came to France,
bon, la première fois que je suis venu en France, j'en ai bénéficié, en fait.
Mistaking me.
Les gens faisaient l'erreur. Il me prenait pour lui. Des gens me demandaient de signer ses livres.
Take pictures.
Et de prendre des photos.
I think you got the wrong guy.
Je crois, je leur ai dit, vous vous trompez de gars.
But other
bon,
than that,
that's ça,
only my only experience.
Ma seule expérience.
That has been in France.
Ça a été de ça a été en France. En Amérique, ça se passe pas.
Pourriez-vous laisser tenter si on vous proposait de reprendre James Bond?
James Bond.
Non.
Non.
That's not my thing.
Non, okay, c'est pas, c'est pas la peine de se débarrasser de William Boyd. Parler de vos livres, c'est parler de Brooklyn, William Boyle, le décor central hein, de vos récits, comme si vous aviez décidé d'en faire un sujet d'étude littéraire où se déroulent des histoires criminelles. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça marche?
Yeah, I mean, I think so.
Oui, je crois. J'ai grandi là-bas, ma famille y habite toujours. Et quand je me mets à écrire, c'est ce paysage-là qui me vient. Du coup, je marche dans les rues, je marche sur les trottoirs, je vois les terrains, les paysages. Donc même si je n'y suis pas, c'est à ça que je pense. C'est vraiment l'endroit qui me hante tout le temps. Et je ne peux écrire que là-dessus.
Il y a quelques années, le Guardian qualifiait Brooklyn de nouvelle Mecque des écrivains. L'accroche du papier était Amis au coffee shop et Auster au parc. C'est à votre avis un vrai phénomène littéraire ou un pur hasard de la gentrification?
Oh, well, that's not my part of Brooklyn.
Mais ça, c'est pas le Brooklyn qui est chez moi, ça.
That's
ça, c'est l'autre Brooklyn.
That's a different part of Brooklyn.
C'est un autre quartier.
All the writers live and now
là où habitent les autres auteurs connus et les acteurs où ils habitent et les groupes de musique où ils habitent, c'est pas chez moi.
Yeah, my part of Brooklyn is more of a kind
Brooklyn
of
à moi, c'est
cultural wasteland.
C'est une sorte de terrain vague culturel, si vous voulez.
Mais justement, puisque vous en avez fait le décor de vos récits, pourquoi est-ce que vous trouvez que ce microcosme est aussi passionnant et inépuisable?
What do you find there?
I mean, for me, it's the way the neighborhood.
Pour moi, c'est la façon dont ce quartier vous attrape et ne vous lâche jamais.
It informs everything, even if you leave.
Et ça influence tout ce que vous faites, même si vous partez.
With Gravesend, I could have
avec Gravesend, j'aurais pu écrire un bouquin qui se passait ailleurs et pourtant Gravesend, ça aurait été le titre parce que tout est formé par ce quartier-là dans ce roman.
Small, I mean, I don't think people think,
j'ai pas l'impression que les gens pensent à New York en se disant que ça peut être un endroit comme ça. Il y a ce sentiment d'être dans une petite ville. Et qu'on n'a pas forcément dans d'autres quartiers.
Gravesend, qui était le premier récit dont parlait Laurent tout à l'heure, publié par Rivage, le fameux numéro 1000.
Pour bien écrire sur un lieu, est-ce qu'il faut l'avoir quitté?
I mean, that's a good question.
C'est une bonne question. La seule réponse que je peux avoir, c'est que c'est ce que j'ai fait.
Yeah, I did.
Oui, je suis parti.
I couldn't really write about it successfully until I left it.
J'arrivais pas vraiment à l'écrire dessus. Je sais pas pourquoi.
I know that it mattered to
me
somehow.
Je crois que ça a été important pour moi.
Mais on a presque même le sentiment que c'est un sujet sur lequel vous pourriez passer votre vie à écrire. Alors que, comme on le rappelait, vous l'avez quitté maintenant.
Yeah, I think so. I mean, I think
oui,
even the
pense.
Fact that I left it will make
et même
me
le fait
want to
que, j'ai, que je l'ai quitté me donne encore plus envie et me donnera plus envie encore d'écrire.
I really can't see myself writing.
Je me vois pas du tout écrire
right
sur un autre endroit.
Road,
peut-être
right now,
mon quartier alors.
Mais
il y a déjà plein de bouquins sur la ville où j'habite maintenant. Donc
William Boyle, Laurent Chalumeau qui a écrit votre portrait, qu'on a pu entendre tout à l'heure, est présent dans le studio avec nous. J'ai bien expliqué que c'était le président de votre fan club français. Il a annoncé que vous alliez recevoir d'ici quelques années le prix Nobel de littérature. Il aime votre travail et donc on lui a accordé le droit de vous poser une question à une condition, c'est que cette question ne dépasse pas 20 secondes si c'est possible. Laurent Chalumeau, Laurent, est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Ok, top chrono.
Quand on lit vos romans, on a l'impression que les gens qui les peuplent, alors même qu'ils habitent dans les quartiers et qu'ils cherchent à avoir une vie normale sont à un demi degré de séparation du crime organisé, ou du crime désorganisé d'ailleurs. Est-ce que, en grandissant à Gravesend, vous aviez, vous aussi, le sentiment d'être comme ça proche de... Enfin, d'être presque connecté, comme bien même vous n'étiez pas mafieux vous-même.
26 secondes, pas mal.
I was deeply fascinated.
Moi, j'étais profondément fasciné
by mob history as a
par
kid.
L'histoire de la mafia quand j'étais gamin. Me. Elle était tout autour de moi.
Bensonhurst and Gravesend.
Bensonhurst.
The neighborhoods I grew up between were.
Ce quartier là.
Especially Bensonhurst was heavy duty.
C'était vraiment un quartier vraiment très 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 imbibé par la mafia. Et pas mal des Goodfellas étaient aussi par là.
I loved reading about older mob history.
J'aimais lire ces histoires de mafia.
Coney Island.
À Coney Island, Lucky Luciano, Abrelles.
But my connection,
mais mon lien,
for the most part, was just,
pour la plupart des choses,
c'était
ma fascination.
The apartment I grew up in,
mais j'ai grandi dans un appartement.
Before my mother and I lived there, a gangster named Gaspard
et
Casso
avant que
lived
ma mère
there.
Et moi habitions là, il y avait un gangster qui avait
really
habité là et ça me fascinait. Lui me fascinait
him,
et les récits de ces histoires, ça me passionnait.
My grandfather would tell
mon grand-père
me, stories,
me racontait
my other
d'autres histoires sur d'autres quartiers, sur d'autres, un autre voisin,
Philip
Carlo, qui
Gaspard
était devenu
Casso.
Auteur et qui avait écrit des bouquins
so
sur le sujet.
Kind of rooted fascination.
Donc ma fascination, elle vient de loin.
Le témoin solitaire, votre nouveau roman, William Boyle, tourne autour de l'idée que nous n'en avons jamais fini avec le passé et que nous sommes au fond la somme de nos différents mois ou différentes étapes de notre vie. Amy, votre personnage, est poursuivi par ce crime dont elle a été témoin, adolescente, par la mort de sa mère, l'abandon de son père, avec une spiritualité compliquée. En fait, même si vous adorez les histoires de mafia et de crime, on a l'impression que le crime est presque un prétexte.
Yeah, I think that's true. I mean,
oui, c'est vrai, c'est le cas.
To me, this is, you know, character study.
Tout ça, c'est de l'étude de caractère, d'une façon ou d'une autre.
Amy has a small part in Gravesend.
Elle a un petit rôle dans Gravesend.
She was a character that
c'était
just
un personnage
me,
qui est resté en moi. Et je m'inquiétais d'elle sur ce qu'elle allait devenir. Et j'avais envie de la retrouver, de savoir où elle en était.
Précisons qu'Amy est bénévole au sein de sa paroisse, qu'elle visite des personnes âgées pour leur amener la communion. Est-ce que c'est sur son rapport à la religion, à la spiritualité un peu compliqué, voire contrarié, que vous la retrouvez, ou vous vous retrouvez en elle?
Yeah, I think that was one way that I
c'était une manière pour moi de la retrouver, oui, c'était un lien, effectivement, avec elle. J'ai grandi dans la religion catholique, dans ce quartier.
Et
c'est quelque chose
by, think,
qui me hante.
In some good ways and some bad ways.
Il y a des bons côtés d'ailleurs et des mauvais
so
côtés à cela.
Amy,
et j'ai mis beaucoup de ça dans le personnage d'Amy.
It seemed like
il me semble
where she was
que
at this time,
là où elle se trouve à cette époque, pour elle, ça
a,
un sens pour elle d'être pris dans ces bons rouages quelque part.
Amy est une jeune femme lesbienne et altruiste, c'est tout vous?
Are you also?
I don't know.
Ah, je sais pas.
Vous savez pas.
Am I an altruist? I'm not altruist. I'm not a lesbian.
Je suis pas lesbienne.
Not a young lesbian.
Je ne suis pas une jeune lesbienne. Non.
Bon, et quand il est question
altruist, probably not.
Altruiste, sans doute pas.
Quand il est question du rapport à la religion et de ceux qui nous émeuvent, il y a un réalisateur français que vous citez volontiers. Écoutez.
Il s'en moque que vous soyez aimé, mon garçon. Soyez d'abord respecté, obéi.
N'avez-vous aucune crainte de Dieu?
Je tuerai ou je me tuerai.
Robert Bresson et son journal d'un curé de campagne, qu'est-ce qui vous touche dans son cinéma et comment est-ce que ça se répercute, si toutefois ça se répercute, sur votre travail?
It's been a huge influence for
me. Très grande influence pour moi.
And kind of unexpected.
D'une façon inattendue.
I don't even know. I was kind of finding stuff on my own.
Je sais pas. D'ailleurs, comment je suis tombé dessus? J'ai cherché des films à voir ou quelqu'un me passait des films et me passait des romans et j'ai découvert ces films.
There was just a slowness and a sadness.
Il y a une lenteur, une tristesse, une réalité que j'avais jamais vue au cinéma auparavant. La façon dont ce film montre le doute et la croyance avec beaucoup de douleur.
En fait,
c'est les films qui m'émeuvent et qui me hantent. Ces images de tous ces films sont avec moi. Récemment, j'ai revu le procès de Jeanne d'Arc. Et voilà un autre film qui vraiment a influencé. Il y a beaucoup de Jeanne d'Arc dans mon roman, dans ce nouveau roman, dans Le Témoin solitaire.
On va reparler de Jeanne d'Arc et du Dreyer, si vous le voulez bien, puisque votre héroïne porte le nom de l'actrice qui a joué Jeanne d'Arc. On va en parler dans quelques instants, William Boyle, et continuer à parler du Témoin solitaire qui vient de sortir aux éditions Gallmeister. Mais pour l'heure, j'ai une question un peu plus étrange à vous poser. Est-ce que vous savez faire ça?
I don't think so.
Ah non, je crois pas.
Never tried.
J'ai jamais essayé.
Should I try?
J'essaye.
It's not on video, so I'll do it.
C'est pas visuel.
Non, ça y est, c'est pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Don't worry. C'est pour les pop news.
Et une nouvelle fournée de mean tweets, ce petit segment de l'émission américaine de Jimmy Kimmel dans laquelle des célébrités viennent lire face caméra des tweets horribles qui leur sont adressés. Une édition spéciale musique avec par ordre d'apparition les Strokes, Pink, Elvis Costello et Miley Cyrus.
The Strokes, worst piece of band ever made, period. Yeah.
Pink is aging pretty well for a pig. Thank you.
Elvis Costello is a really great artist, if you're a hipster.
Miley Cyrus is a smelly pirate hooker.
Le nombre de bips vous indique à peu près la teneur des tweets. L'intégralité de cette vidéo est à retrouver sur la page de l'émission.
Musique toujours, enfin ça dépend. Une célèbre plateforme de streaming international vient de dévoiler les artistes, titres et albums les plus écoutés depuis le lancement de la plateforme, soit 10 ans. Et le grand gagnant est lui. Ed Sheeran, deuxième artiste le plus streamé de tous les temps. Shape of You, chanson la plus écoutée, figure deux fois dans la liste des albums les plus écoutés pour Multiply et Divide. Well done, Sheeran.
Et un jeune artiste se lance en live et il vient de l'annoncer. Giorgio Moroder a 78 ans et toutes ses dents, enfin je crois, part pour la première fois en tournée européenne. Le musicien producteur italien à qui l'on doit les BO de Midnight Express, de Scarface, de Top Gun ou des œuvres disco telles que le Love to Love You de Donna Summer, comme des collabs avec Lady Gaga ou Daft Punk, jouera donc live au printemps. Il s'arrêtera en France le 22 mai au Grand Rex à Paris. Mise en vente des tickets demain à 9h.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oh, Giorgio Moroder.
Oui, un petit peu, mais avec toutes ses dents.
Merci Charline, et j'en profite pour vous annoncer que France Inter lance une grande consultation à propos du futur de notre station bien-aimée. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des suggestions, eh bien, allez sur maradiodedemain.fr pour nous les communiquer. Nous les attendons avec impatience. Voilà. William Boyle, ne bougez surtout pas, on continue à parler du Témoin solitaire dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau, des Strokes, justement, qui s'appelle Last Night.
Last night, she said.
Last Night. C'est un morceau des Strokes, extrait de l'album Is This It. C'était en 2001. Nous recevons aujourd'hui William Boyd pour son nouveau roman qui s'appelle Le Témoin solitaire, paru chez Goldmeister. William, on parlait un petit peu de la France tout à l'heure avec les films de Robert Bresson, et de toute évidence vous êtes francophile. Vous aimez des auteurs comme Simenon, Manchette, Chalumeau évidemment, Izot, les films de Bresson, Jacques Demy. Qu'est-ce qui, à votre avis, rend le caractère français si différent, si attractif pour vous?
Je ne sais pas si je n'ai qu'une seule réponse pour chacun et qui regroupe tous les artistes que vous avez cités, mais Simenon, quand j'ai rencontré l'œuvre de Simenon, j'ai trouvé un auteur, un écrivain,
qui
ménageait beaucoup d'intimité dans le rapport avec ses personnages. Je ne sais pas quel est le titre de ce roman français.
Monsieur Monde vanishes.
Une femme disparaît.
That book and Three Bedrooms in Manhattan and lots of the hard novels, beaucoup de ces romans assez durs.
C'est quelque chose qui m'a vraiment remué.
C'était vraiment une découverte.
J'ai pensé qu'il y avait une formule pour faire des polars. Et ce désespoir-là, qui bouge et qui a fait avancer la fiction, ça m'a touché. Ce sont des romans psychologiques. D'une façon unique d'ailleurs. Mais tous ces artistes que vous avez cités, ce sont des artistes que j'aime. Et effectivement qui m'ont influencé. Des artistes que j'ai trouvés à des moments différents de ma vie aussi.
Comme beaucoup d'auteurs de polar anglo-saxon, vous avez un public fidèle en France. Comment est-ce que vous expliquez l'attachement du public français à ce genre? Vous croyez qu'on aime bien ce qui saigne ici?
Je crois que j'écris des personnages vraiment très sombres. J'ai une vision assez sombre. J'espère que je n'écris pas des clichés sur New York ou sur l'Amérique.
J'ai
l'impression d'avoir
pessimistic, despairing vision of
une vision désespérée, pessimiste de l'endroit d'où je suis originaire. Et voilà, je crois que c'est ça.
Vous avez baptisé votre héroïne Amy Falconetti du nom de l'actrice qui jouait Jeanne d'Arc dans le film de Dreyer, une sainte martyre, un nom italien. Ça a tout pour vous plaire?
That's one of my favorite films of all time.
C'est un de mes films préférés de tous les temps.
Amy showed up in Gravesend. Amy,
dans Gravesend, elle est apparue comme un caractère secondaire.
Et
j'aimais ce son-là. Il fallait que je lui trouve un nom de famille et ça m'a plu. Amy Falconetti de Flushing, vraiment ça me plaisait. Mais c'est un hommage, c'est vrai, aussi, au film.
And there's all sorts of Joan of Arc references.
Et puis c'est une référence à Jeanne d'Arc, qui sont dans les deux romans.
On en parlait au début de l'émission, vous êtes aussi un fan de musique. Vous êtes disquaire parfois, vos heures perdues. Est-ce que c'est une manière pour vous de rester en contact à la vie sociale, d'échapper à l'isolement de l'écrivain?
Oui, tout à fait. Et j'adore cette partie de ma vie. Ça me permet de rester en phase avec ce qui est nouveau. Et c'est une chance aussi pour moi pour parler avec les gens, parler de musique.
That I might not necessarily have the chance to have those
ce
conversations
que je
if
ne pourrais
I was
pas
in,
faire,
at the store.
Sans doute si j'étais pas, je passais pas du temps dans ce magasin.
Bien. William Boyle, François Guérif, comme le rappelait très justement Laurent Chalumeau tout à l'heure, le légendaire ex-directeur de la collection Rivage, vous a choisi donc pour être, vous, l'auteur du très hautement symbolique numéro 1000 de cette collection, c'est-à-dire en fait l'équivalent de la Légion d'honneur en matière littéraire. Est-ce que vous avez mesuré, quand c'est arrivé, à quel point il s'agissait là d'une distinction honorifique?
I did, yes.
Mais oui.
I grew up. Luckily, I grew up
j'ai grandi quelque part, j'en ai eu la chance, où
ou
Jim Thompson, des auteurs comme ça, ils étaient familiers dans ce milieu-là. Charles Williford aussi. C'est quelqu'un qui est négligé, hein, qu'on révère en France, mais qui est inconnu en Amérique. Et j'ai compris très tôt combien le public français avait compris le roman noir américain. Et c'était sans doute mon plus grand rêve, de trouver un succès en France, plutôt plus qu'ailleurs, en fait. Et donc quand il a choisi mon roman pour cet honneur-là, ça a une résonance chez moi énorme. Moi qui idéalise Goodis, c'est Thompson. Et c'est effectivement, j'ai pris ça comme un hommage.
Eh bien, un rêve réalisé, et nous étions ravis de vous recevoir aujourd'hui, William Boyle, dans Pop-Pop-Pop. Je vois qu'il est 16h52, l'heure pour moi de descendre à la cave, la séquence préférée de Laurent Chalumeau dans cette émission, pour chercher le dernier vinyle de l'émission. Et le rituel de Pop-Pop-Pop, c'est que nos invités américains repartent avec ce que la France produit de meilleur, à savoir du fromage. Allez, je vais vous en trouver un, vous m'en direz des nouvelles. J'y vais. Oula! Oh, c'est très parfumé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma cave? Un petit Münster? Non, non, pas trouvé mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un maroilles peut-être? Pas mal, mais non, c'est pas encore tout à fait ça. Ah, bah oui, bien sûr, je sais. Une boulette d'avenne, voilà. Attendez, voilà. Oh, là, c'est ça, c'est Tchernobyl, là. Ah, ça va faire l'affaire. Tiens, il va adorer ça, William Boy. Oh, attends, je la remonte. Voilà, William Boyle, c'est pour vous. Je vais vous chercher ça dans ma cave. Regardez, vous m'en direz des nouvelles. C'est un fromage, ça, vous ne trouverez pas ça aux États-Unis, je vous le dis tout de suite. C'est absolument interdit là-bas.
Mettez pas les mains dessus. Hein.
Ouais, il laisse pas passer ça à la migration. Non, le touchez surtout pas.
Non, j'y touche pas.
Ça vous plaît?
C'est très beau.
Merci bien.
Et l'odeur est très très chouette.
Bien, et ben, je vous laisse déguster. En attendant, on va écouter un petit morceau. C'est Jacqueline Taïeb, 7h du matin.
Du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller.
Jacqueline Taïeb, 7h du matin dans Pop 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 sur France Inter. Alors William Boyle, cette petite boulette d'avenne, séduit ou pas?
Are you seduced?
A little bit.
Et un petit peu, oui.
Quand tu peux séduire hier ce soir, de toute façon, j'ai l'impression.
Maybe you want to seduce. Bon,
de toute façon, finissez là parce que vous pouvez pas repartir en avion avec, je vous le dis. William Boyle, j'ai l'intention de transformer ma cave en musée. Je demande à tous mes invités de laisser quelque chose de personnel dans la cave. Qu'est-ce que vous pourriez laisser dans la cave de Pop-Pop-Pop?
Sure.
D'accord.
I will give you,
je vais vous donner
Something you probably already have, but
quelque chose que vous avez sans doute déjà,
records,
mais un de mes disques préférés,
Catholic Boy, by the Jim Carrey Band.
Boy par The Green Jim Carrey Band.
Yeah. Ok, how's très bien. That? Ah oui, bah, oui
s'il vous plaît.
Bah, oui, c'est pas très facile à trouver ça.
It's, not very, it's hard to find.
It's not too hard. It's
not
around.
Trop difficile, non?
Yeah, I think it's still,
je crois
still
que
c'est, maybe not in print, but you
c'est
can
peut-être
still find
pas disponible, mais enfin, on peut en trouver des en seconde main.
Très bien. Eh bien, écoutez, je le garderai précieusement. Merci infiniment, William Boyle, de nous avoir rendu visite à Pop Pop. Je rappelle que Témoin solitaire s'est édité chez Gullmeister. Et vous l'aurez compris, c'est plus que chaudement recommandé, non seulement par Laurent Chalumeau, qui voit en vous le futur prix Nobel, mais aussi par, plus modestement, par Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, à la traduction Harold Manning et Colin Gruel, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, Roberto Saviano. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos pour apprendre l'italien sur YouTube.
Abonnatevi al nostro podcast.
Voilà, et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.